C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique, les amis. Aujourd'hui, on va exploser des ballons. Je vais vous parler de Balloon Pop. En fin d'émission, on retrouvera Ludo pour toutes les news ludiques. Et pour commencer, c'est le coup de cœur de Théo Rivière. Salut Théo.
Salut, comment vas-tu?
Bah bien, et toi?
Écoute, très bien, je rentre une nouvelle fois de festival, mais presque reposé quand même.
Ah, tu étais encore parti en festival?
Ouais, ça va être un peu la période, là, j'étais au festival des finales, qui avait lieu ce week-end, Jeux et compagnie.
D'accord.
Qui est un festival qui avait une particularité cette année, puisque pour la première fois, ils remettaient le Caméléon d'or,
ouais,
qui était un prix de l'illustration.
Ah oui.
Et donc, il y avait plusieurs jeux nommés, il y avait à la fois un prix du public et un prix du jury, et j'avais la chance de faire partie du jury pour cette première édition.
Alors, qui a eu le prix de l'illustration, Théo?
Alors, on avait trois catégories. Dans la catégorie enfant, c'est le grand méchant monstre.
D'accord.
Dans la catégorie famille, c'est Perspective. Et dans la catégorie expert, c'est la famille Villa.
Très bien. Bon, eh ben, et donc c'était facile à se mettre d'accord avec le jury? Vous étiez combien?
On était 5 et c'était pas évident. On a eu beaucoup de discussions parce qu'il y avait, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de très jolies couvertures,
ouais,
maintenant, et il y a plein de très beaux jeux, mais ça a été quand même. On a réussi à avoir une bonne capacité d'écoute entre tous les 5, à pas mal papoter et puis à pas mal laisser la place à chacun et à chacune. Donc c'était pas un exercice trop difficile, et c'était au global vraiment hyper agréable.
Bien sûr, il n'y avait pas d'illustration faite par de l'intelligence artificielle.
Non, enfin, on avait complètement bloqué pour le coup.
On aura l'occasion de faire un débat bientôt là-dessus, ça va être sympa, je pense.
Avec grand plaisir.
Du coup, Théo, aujourd'hui on parle d'un jeu pour les enfants qui s'appelle Le Chemin de la Maison.
Ouais, tout à fait, j'ai profité donc du Festival des Finales pour tester tout un tas de petits jeux. Alors, rarement le temps sur les festivals de se poser pour faire des longues parties.
Ouais.
Et Finale était, ils ont fait beaucoup de spectateurs et de spectatrices, donc il y avait pas mal de monde, donc on est un peu à l'affût sur les festivals de « Oh, une table se libère, vas-y, on va s'installer, je ne sais pas quel est le jeu, mais on va le tester pour voir ». Qui est un truc que j'aime bien parce que ça permet de faire des belles découvertes,
ouais,
et ça a été le cas de Le Chemin de la Maison. Puisque bah, c'est un jeu pour les enfants de 5 ans, donc de prime abord, c'est pas forcément le jeu sur lequel je vais me dire « Ok, sur un festival, je veux absolument le tester,
ouais,
c'est parti, c'est dans mon objectif ». Néanmoins, on a été très vite attiré par la très très belle couverture de Sepio, sur lequel on voit un magnifique écureuil. C'est édité par Spaceco, donc il y a un côté de « Ok, on est quand même un peu en confiance sur la qualité ludique de ce que fait Spaceco maintenant
ouais. ».
Et donc, on s'est faufilé sur cette table à un moment avec 4 adultes en se disant « Ok, dans le pire des cas, on aura passé 15-20 minutes, si jamais on passe un mauvais moment, tant pis. Mais a priori, on devrait un peu rigoler. Ça devrait être un peu facile, puisque c'est un jeu coopératif pour les enfants de 5 ans, mais allez, on s'installe et on découvre le jeu.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu?
Beaucoup de choses. On est sur un principe qui est extrêmement simple et extrêmement élégant, puisque dans Le Chemin de la Maison, on doit ramener Pirouette, qui est un écureuil, qui démarre au bout d'un plateau composé d'un petit chemin, un petit labyrinthe avec plein d'arbres, et doit se déplacer d'arbre en arbre jusqu'à sa maison, qui est un arbre en 3D, un peu plus loin sur le plateau.
D'accord.
Donc il y a vraiment un truc qui est hyper simple et hyper limpide en termes d'objectifs et en termes de narration. On est Pirouette, on a envie de se déplacer dans la forêt, et puis il faut qu'on se grouille un peu parce que l'hiver arrive, donc on va être remis dans... On va avoir rejoint notre maison assez rapidement pour pouvoir passer un bel hiver.
D'accord.
Derrière, si on est sur un principe de jeu aussi extrêmement simple et là encore vraiment très élégant, puisque l'idée est très jolie, on pioche une carte à son tour. Ces cartes vont nous indiquer, avec quelques petites exceptions, j'y reviens après, mais une direction, donc soit à gauche, soit à droite, soit vers l'avant.
Ok.
Et cette carte, on va la placer sur un plateau de programmation face cachée. Évidemment, on n'a pas de communication directe avec les autres joueurs et joueuses, on peut pas dire oh, « j'ai pioché un vers l'avant, je vais le mettre ici », on pioche sa carte et discrètement, sans le dire en tout cas, on la met face cachée sur un plateau qui comporte 8 emplacements, ce qui va être assez important, puisque sur ces 8 emplacements, on va jouer seulement 5 cartes, mais l'endroit où on va le placer dans l'emplacement va être important, puisque à la fois, ça va être l'ordre dans lequel on va révéler ces cartes et les résoudre.
Ah oui, d'accord.
Et à la fois, ça va donner une indication aux autres joueurs et joueuses. Dans ce petit labyrinthe de forêt, clairement, on a besoin que Pirouette aille vers l'avant, et bah, j'ai pas une carte qui fait aller vers l'avant, je vais pas la mettre en première, parce qu'autrement, on sait que je vais la bloquer.
Ouais.
Alors, si je la mets en troisième position, est-ce que ça veut dire que j'ai une carte qui permet d'aller vers la gauche, qui serait parfaite si on fait vers l'avant, ou est-ce que bah, je prends pas le risque et je la mets en quatrième position? Donc, on est vraiment sur ces jeux où,
d'accord,
à la fois, on a une petite prise de décision, et à la fois, on a vraiment une communication par le jeu, qui est quelque chose que moi, j'adore, et on a vraiment ce truc de « Attends. Mathieu, tu viens de poser cette carte en cinquième position sur 8. » À tous les coups, c'est parce que tu veux nous transmettre secrètement cette information-là. Et en fait, peut-être pas, peut-être que tu as joué un peu au pif parce que bah, tu ne savais pas trop quoi faire. Mais dans tous les cas, il se passe quelque chose autour de la table, ouais. Qui est vraiment, vraiment très, très chouette.
Et tu dis que c'est à partir de 5 ans ?
Ouais, c'est à partir de 5 ans, et on a eu un peu la même interrogation que toi. On n'a pas eu l'occasion, alors on était 4 adultes.
Ouais.
On s'est tous dit, bon, qu'est-ce que ça va donner avec des enfants de 5 ans ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont prendre des bonnes décisions ? J'ai assez confiance en Spaceco pour avoir mené pas mal de tests avec le public cible. Mais c'est vrai que je suis très, très curieux, et pour l'avoir vécu sur pas mal de jeux, on a souvent des belles surprises sur les jeux pour enfants et sur leur capacité à réussir des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Mais j'ai hâte de voir des enfants jouer à un jeu, parce que vraiment, il se passe quelque chose d'assez magique autour de la table dans tous les cas.
Donc super, ça s'appelle Le Chemin de la Maison, ça vient de sortir chez Spaceco.
Ouais, soit ça sort juste là, soit ça sort vraiment tout bientôt.
Ouais.
Je l'ai pas dit, mais c'est un jeu en plus de Léo Colovini, qui est un auteur exceptionnel, hein, qui est là depuis... j'ai regardé, son premier jeu sort en 1988, je crois.
Ah oui, ouais.
Donc il commence à être là depuis un petit bout de temps, et c'est un auteur qui nous propose plein de très chouettes jeux très régulièrement.
Très bien, bah merci beaucoup Théo, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur.
Avec plaisir, passez une très bonne journée.
Salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Si vous êtes passionné de Tetris ou de Candy Crush sur votre smartphone, je vous propose de faire à peu près la même chose aujourd'hui. Alors au lieu d'exploser vos yeux sur vos écrans, venez exploser les ballons sur votre table avec Balloon Pop, un jeu qui a été élu meilleur jeu en Finlande et qui arrive en France grâce à Yellow. Dans ce jeu de Mikko Punakilio, votre objectif est de former des ensembles de ballons qui sont tous de même couleur ou qui ont tous un symbole. Lorsqu'un groupe de ballons de taille suffisante est constitué, tous ces ballons éclatent et ceux qui étaient en dessous remontent vers le haut comme par magie. Alors au niveau matériel, vous n'avez pas de vrais ballons, hein, mais des cubes translucides de différentes couleurs, rouge, vert, bleu, jaune et des blancs, couleurs neutres, hein, qui remplacent n'importe quelle couleur. Certains cubes auront un symbole, chaque joueur aura un plateau double couche de 6 colonnes et 8 lignes pour poser ses petits cubes. Enfin, tous les joueurs ont une série de 10 cartes représentant le placement possible des ballons quand vous la jouez. Il y a au total 8 manches pour faire exploser ces ballons. Et selon les placements des derniers petits cubes en fin de partie, hein, qui n'ont pas explosé, on pourra même obtenir des points en plus. Mais alors comment on joue ? Bien, le joueur actif va tirer des cubes en fonction du nombre de joueurs et former des séries de 4. Il pioche les cubes dans le petit sac et les pose directement sans changer de place au cube. On aura autant de groupes de 4 cubes que le nombre de joueurs. Puis à tour de rôle, chaque joueur va jouer une carte de sa main face visible. Personnellement, je préfère utiliser la variante en posant tous en même temps sa carte face cachée. Il y a plus de tension et on ne joue pas en fonction du joueur avant. Alors ces cartes indiquent les règles de placement. Certaines indiqueront que le placement doit être horizontal, d'autres vertical, ou encore que l'on peut retirer certains cubes du groupe si ça nous arrange. Les cartes de plus faible valeur ont plus d'avantages forcément. Mais celui qui a mis la carte à de plus grande valeur pourra choisir en premier son groupe de 4 cubes, et ainsi de suite. Alors c'est le moment du lâcher de ballon, sachant que le groupe 1 doit être posé sur le plateau tel qu'il est indiqué sur la carte. On peut le retourner, mais on ne peut pas changer les cubes de couleur de place. Et l'un d'eux doit toucher la ligne du bas du plateau. Puis tous les ballons s'envolent, enfin vous les poussez vers le haut, et ils seront bloqués par ceux déjà posés dans la grille. Et à partir du moment où ils forment un groupe de 4, c'est-à-dire qu'ils sont de la même couleur, ou un groupe de 2 avec le même symbole, ils explosent. Vous les retirez, les autres qui étaient en dessous remontent, ce qui peut créer des réactions en chaîne si vous avez bien anticipé votre coup. À chaque manche, on aura un décompte de points, il y a un système de soustraction. À partir de 4 ballons de même couleur, vous avez 2 points, car on fait 4 moins 2 égale 2. Donc si vous avez 6 ballons d'une même couleur qui explosent, ça fait 6 moins 2 égale 4. Concernant une série de symboles, il explose à 2, et là vous faites moins 1, donc vous avez 3 cubes avec des symboles, ça vous fait 2 points. Vous répétez ces décomptes à chaque fois que les séries se forment, et on enchaîne une nouvelle manche. Bien sûr, les cartes déjà jouées sont défaussées, vous ne pouvez pas les reprendre, ce qui laissera moins de choix dans les dernières manches. Enfin, de partie. J'espère pour vous qu'il ne reste plus beaucoup de ballons dans votre grille, car vous gagnez un point de plus par colonne vide et 3 points par ligne sur les 3 dernières, celles qui sont tout en haut. Balloon Pop, c'est un jeu familial qui est accessible sans trop de tension et d'interaction autour de la table, sauf quand on vous prend votre groupe de ballons, forcément ça râle un petit peu. Chaque joueur va essayer d'anticiper, de se projeter dans l'espace pour faire des combos avec des réactions en chaîne et exploser un maximum de ballons pour obtenir le plus de points. C'est très tactique et les enfants auront peut-être du mal à anticiper leur coup pour faire des combos. Voilà, ça s'appelle Balloon Pop, alors il n'y a plus qu'à exploser vos ballons.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et tous les lundis matin, on retrouve les news avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors, pas mal de news encore cette semaine.
Trois petites news là qui sont tombées la semaine dernière. Déjà, on va partir du côté de chez Yellow, on va traverser l'Atlantique et on va s'intéresser à une annonce de Restoration Games, c'est l'éditeur de Dunmatch.
Ouais.
Tu sais, c'est jeux asymétriques, une gamme que localise Yellow. Mmh. Donc, après avoir fait les héros littéraires comme Dracula, Robin des Bois, ou alors même les Marvel, hein, d'ailleurs, qui y sont passés aussi. Bah là, chose un peu exceptionnelle, Restoration Games nous annonce pour 2024 la prochaine boîte qui va s'appeler donc Slings and Arrows, et en français, ça sera Coup de Théâtre.
D'accord.
Et oui, on va jouer avec des personnages issus du théâtre pas moderne, hein, on va dire plutôt... des essentiels du théâtre, parce que dans la boîte il y aura Shakespeare, il y aura Hamlet, il y aura Titania qui est sortie du Songe d'une nuit d'été, et les trois sorcières qui sont issus de Macbeth. Ils seront tous jouables, donc c'est assez étonnant
de
trouver ce genre de personnage, peut-être pour redonner goût au théâtre aux petits Américains et aux petits Européens. Je ne sais pas. Donc toujours quatre auteurs à la baguette, Rob Davio, Jonathan Guberman, Jason Egger et Justin Dietz Jacobson, et aux illustrations Zoé Van Dicht et Nastia Len, 2 à 4 joueurs. Donc ça sera une grosse boîte avec 4 personnages, une quarantaine de minutes à partir de 9 ans, et ça sera prévu pour automne 2024.
Donc c'est sûr, Yellow localise, parce qu'il localise tous les matchs. Hein.
En fait, Yellow avait... Il y avait des problèmes sur les licences parfois.
Ouais, bah oui.
C'est pour ça que les Marvel, c'était un peu compliqué, mais normalement, le suivi de la totalité de la gamme, quand il n'y a pas de licence prix-là,
ouais,
j'imagine, ça passe nickel. Hein. Et
ouais,
puis, j'ai hâte de voir ce que donne William Shakespeare contre l'homme invisible.
Mais oui, c'est vrai, ça prend... c'est original.
Oui, parce que tout est modulable, on peut... les boîtes.
Très bien. Autre news.
Ouais, chez Gigamic, avec une sortie de vendredi, là, ça s'appelle Moorland. Moorland, c'est un jeu qui va nous faire jouer dans les tourbières.
Ouais.
Encore un thème nature, mais là, pour le coup, c'est assez original. On va parler de biodiversité, de combinaisons d'animaux, d'araignées, d'eau, d'itinéraires aquatiques, de ressources de plantes. Et effectivement, on va devoir gérer sa tourbière. Alors, Moorland, c'est un jeu qui nous vient de l'éditeur Deep Print Games, qui est aussi partenaire donc avec Gigamic. Et puis c'est un jeu initié hein, quand même hein. C'est pas du familial, on va devoir s'adapter un petit peu aux contraintes que le jeu nous impose en termes de ressources qui vont arriver dans la tourbière. On va devoir les stocker par moment pour essayer de faire des points. Il y a une petite salade de points à la fin de la partie. Le jeu est assez épuré, à part la boîte de jeu, le reste des illustrations, on va dire que il y en a pas trop, en fait, 2-3 petits insectes sur les tuiles.
C'est ça.
Mais tout va passer par la mécanique et par le fait d'essayer de
déplacer ces plantes dans les différents cours.
Ouais, il va falloir les acheminer en faisant effectivement une association de tuiles aussi pour essayer de faire un meilleur cours d'eau possible, comme aux aventuriers du rail quand on fait la plus grande ligne de train. Donc, c'est disponible depuis vendredi. C'est un jeu de Stephen Bogen. C'est illustré par Annika Heller pour 2 à 4 joueurs, environ 1 heure de jeu pour les 10 ans et plus, donc familial plus initié.
C'est super original, aussi bien au niveau de la mécanique que de la thématique, hein, parce que je crois pas une thématique sur les tourbières.
Ouais, exactement.
Et on en parlera bientôt hein, dans ces ludiques.
Ouais, et puis moi j'aime bien la DA, j'aime bien la patte graphique, c'était pur qui a été donnée au jeu. J'aime beaucoup ce que fait Deep Print Games en général.
Très bien. Et dernière news, Ludouf.
Les organisateurs du FIJ ont fait un tout petit bilan. Là, ont lancé les derniers chiffres. Donc, il y a eu 85 000 festivaliers. J'ai fouillé l'année dernière, c'était 73 000, donc 12 000 de plus. Ce qui est pas mal pour cette 7e édition. Plus de 5000 professionnels, 1400 compétiteurs avec plus de 40 nationalités, 500 auteurs de jeux, 350 journalistes et influenceurs, 300 stands, des 3 halls. Avec des nuits du off sur les plages, etc. Bon, ça, c'est le côté gay un peu des choses. Après, il y a encore eu des choses qui n'ont pas trop marché, des choses qui ont été tentées. Une paralysie le samedi après-midi, effectivement, sur le nombre d'entrées qu'il y a eu. Bon, ça arrive. victime de son succès.
Il fallait, on était bloqué ouais, à l'étage.
C'est ça, pour certains. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en train de jouer. Les places payantes pour le off, du coup, je pense que cette année, ça a été un petit peu moins fréquenté que d'habitude et ça a fait grincer beaucoup de dents. Peut-être que ça sera à revoir. Les animations dehors, bon, c'était chouette. Le nombre de food trucks avait triplé, je crois. Il y avait toujours la queue. Bon, écoute, voilà. Donc,
ça dépend à quelle heure tu manges, Ludo, aussi.
Oui, moi, j'ai essayé d'aller manger vers 11h quand même, et ça allait. Mais à 11h30, ça commençait à...
Exactement.
Mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà,
à
part cette couleur de badge et puis la pluie qui était pas forcément la bienvenue, mais ça, c'est pas de leur faute.
Bah non.
C'était quand même une chouette édition.
Ouais, très belle édition du Festival des Jeux de Cannes.
Et donc, il y a les nouvelles dates. Hein. Je voulais finir là-dessus.
Ouais.
L'année prochaine, donc, du 28 février au 2 mars, pour cette 38e édition du Festival International des Jeux de Cannes.
Tu y seras, bien sûr, Ludo.
Oh, bah, il y a des grandes chances, sauf s'ils mettent une troisième couleur de badge.
Ah là 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 là. Bon, eh ben, merci pour toutes ces infos, Ludo, et on se retrouve, alors, pas la semaine prochaine. Mais
exact,
la semaine d'après.
Dans 15 jours.
Voilà, très bien. Salut, Ludo.